RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h sur RMC et pour la première fois en simultané à la télé sur RMC Sport News. Jean-Luc Roy n'a pas fait les choses à moitié, il a mis sa plus belle chemise. Salut Jean-Luc.
Vous n'en attendiez pas moins de moi. Salut Louis, bonjour à tous.
Et puis vous l'avez toujours rêvé, nous l'avons fait, voici à quoi ressemble Adrien Tambay dans votre télé. Salut Adrien.
C'est le vrai. Hein.
C'est le vrai, on a pas le vrai finalement. À la une ce dimanche, le rallye, Sébastien Loeb a retrouvé cette semaine un volant. Il disputera 6 manches du championnat du monde avec Hyundai, 6 manches dont le Monte Carlo dans un petit peu plus d'un mois. L'ancien pilote Guy Fréclin sera avec nous. Au programme également, Monsieur Dakar, Stéphane Peter Hansel sera l'invité de Motors. Il a remporté l'épreuve 13 fois. L'édition 2019 débutera le 7 janvier au Pérou. Et puis la F1, une fois n'est pas coutume, en fin d'émission dans Radio Paddock. Vous écoutez RMC, vous regardez RMC Sport News. C'est parti pour Motors, bienvenue.
RMC Motors. 190, 150 mètres, droite, 320. Le briefing.
C'était inconcevable, le nonuple champion du monde des rallyes n'avait pas de baquet pour la saison prochaine. Fini le rallycross avec Peugeot, terminé le WRC avec Citroën. Depuis cette semaine, le problème est réglé par Hyundai qui a embauché le duo Loeb et Lena, duo qui fera ses débuts dès le 24 janvier au rallye de Monte Carlo. Dans un instant, on accueille notre invité, l'ancien pilote Guy Fréclin, mais d'abord premier tour de table. Messieurs, Jean-Luc, Adrien, est-ce que c'est un bon choix pour Sébastien Loeb?
Excellent. Écoute, de toute façon, il était donc dans le giron de Citroën, on le sait bien, mais un sponsor les a lâchés. C'est la raison pour laquelle la troisième voiture, entre guillemets, ne sera pas engagée. D'ailleurs, ça pose des problèmes à d'autres pilotes qui, par voie de conséquence, ont été éliminés. Donc, Sébastien Loeb, je vais plutôt les appeler par leur nom, sinon on va pas s'en sortir. Loeb se retrouvait à pied, puisqu'on sait que son programme de rallycross, Peugeot y a mis un terme. Donc, il était un petit peu dans l'expectative, comme on dit. Il a trouvé, évidemment, une belle offre de Hyundai. Je pense qu'il en avait peut-être une autre de Toyota. En tout cas, il a dit qu'il en avait plusieurs. Bah, c'est l'un des constructeurs majeurs, même si le titre est revenu cette année à Toyota. C'est évident que son rôle, d'ailleurs, va être de décrocher des victoires, bien sûr, mais de rentrer des points pour le titre constructeur de Hyundai, qui pour eux est au moins aussi important, sinon plus, que le titre pilote.
Adrien,
ben ça va aussi nous donner peut-être des réponses sur la performance de la Hyundai et de cette équipe, parce que jusqu'à présent ils avaient un Thierry Neuville qui arrivait à bien se battre au championnat contre Sébastien Ogier, mais aujourd'hui on va avoir Thierry Neuville en confrontation aussi directe avec Sébastien Loeb, cette légende du rallye. Ça va donner un ordre d'idée. On sait que c'est du sport mécanique, il y a toujours la part de mécanique qui fait la différence. Et là, on va avoir un Loeb face à un Neuville. On va voir vraiment de quel bois est fait Neuville. Et c'est très intéressant. Et je pense que Hyundai aussi s'appuiera beaucoup sur Sébastien Loeb pour développer cette voiture et pour qu'elle soit aussi performante que la Citroën.
Est-ce que c'est pas perturbant de ne disputer que 6 rallyes dans une saison?
Bah, je pense que pour Sébastien Loeb, c'est pas perturbant, et que lui arrivera à être au niveau. Mais pour un pilote lambda, oui, forcément, c'est un désavantage de faire que 6 rallyes dans la saison. Après, on verra comment ça se développe dans le futur. Mais s'il venait à être très compétitif, et maintenant qu'il fait plus que le rallye avec ça sera peut-être pour lui l'envie de faire beaucoup plus dans le futur, je sais pas.
Et résultat, Jean-Luc, nous aurons ce duel tant attendu, même s'il ne sera que ponctuel, entre les deux Français, on va dire le roi et son héritier, c'est peut-être ça la formule qui s'y est, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. On rappelle que le premier a conquis 9 titres, le second est sur une lignée de 6 consécutifs.
Et c'est ça, donc il faut s'appeler Sébastien pour être champion du monde des rallyes, par voie de conséquence. Et puis, je le rappelais tout à l'heure dans les grandes gueules, mais c'est vrai que pour triompher en sport mécanique et particulièrement en automobile, si on rajoute les 4 titres de Sébastien Vettel consécutif à l'époque pour Red Bull, hein, entre 2010 et 2013, et les 4 titres de Sébastien Bourdais, le français en Champ Car, donc là jusqu'en 2007, bah c'est vrai que c'est un prénom qui porte chance.
C'est ça qui m'a plombé.
Ça, c'est
moi,
ça, oui.
C'est ça.
Mais ton deuxième prénom, c'est ça.
C'est Patrick.
Non, pour redevenir beaucoup plus... Beaucoup, et Patrick, si tu nous regardes. Pour redevenir beaucoup plus sérieux, je pense qu'effectivement, Hyundai compte aussi sur le pour rapporter des points pour le titre constructeur, je le répète. On en parle peu, c'est vrai, par rapport au titre pilote. Et t'as raison, cet affrontement entre les deux hommes forts, en tout cas depuis 15 ans du rallye, va être marquant. Alors, en rappelant un petit bémol, c'est que Sébastien Ogier, cette fois, se plaignait du fait que les pilotes invités, ce qui sera le cas de Loeb, partaient en bénéficiant d'une piste balayée, puisqu'on rappelle que c'est l'un des gros problèmes sur la Terre en rallye. Alors ça, c'est un problème sur lequel la fédération va devoir se pencher. C'est un peu comme ça qu'il explique aussi le fait que, en Catalogne, on sait que c'est un rallye moite-moite, hein, on part sur la Terre et on arrive sur le goudron, c'est clair que l'Eub, je vais les appeler par leur nom, sinon on sait plus de qui je parle, l'Eub a bénéficié du fait que les deux premiers jours, il y a eu une piste balayée. Bon, ça c'est un petit peu des chicailles entre eux, mais il n'y a pas de mauvaise ambiance. Moi je le rappelle tout le temps, il y a un affrontement sportif entre les deux hommes qui se respectent à l'évidence.
Il n'y a pas de mauvaise ambiance, mais ils sont pas meilleurs amis non plus.
Ah, ils partent pas en vacances.
Et je pense que la bataille sera beaucoup plus saine dans ces conditions-là, avec un Loeb chez...
Pourquoi plus saine?
Plus saine, parce que on sait que dans le passé, il y a eu quand même une forte concurrence et que chez le même constructeur, ça aurait pu être un peu compliqué d'avoir les deux. Je pense que Seb Ogier n'aurait pas vu d'un bon œil l'arrivée de Sébastien Loeb juste pour faire 6 rallyes comme ça. Pour un peu l'ennuyer, parce que Loeb il vient pas pour faire deuxième
et lui prendre des points
et lui prendre des points
pour le titre pilote.
Donc je pense effectivement que pour nous de l'extérieur, je sais pas si pour Loeb c'est le bon choix, mais pour nous c'est le bon choix parce que ça va faire du spectacle, c'est sûr.
C'est aussi une aubaine pour la discipline, parce qu'évidemment Jean-Luc, ce duel Loeb Ogier, il va polariser l'attention et il va susciter une attente tout au long de la saison.
Mais ça c'est clair que les 6 rendez-vous on ne les connaît pas tous, on sait déjà il démarre par le Monte Carlo, ce qui est d'ailleurs audacieux, parce que c'est quelques jours après l'arrivée du Dakar, qui
sera
le 17 janvier, hein, parce que le Dakar cette année c'est 7-17 en gros, donc il y aura 4-5 jours, pas plus, avec les voyages et la décompression, pour se mettre dans le Monte Carlo. On attend évidemment une grande performance, mais tu as raison, c'est vrai qu'on peut penser qu'il y aura la Catalogne, on peut penser qu'il y aura la Corse, enfin déjà on peut penser qu'il y aura le Mexique, ce sont les trois qu'il a fait déjà cette année, on ne voit pas pourquoi il ne les reconduirait pas, plus la Corse et encore deux autres à venir, donc c'est clair que oui, ce sera une affiche absolument formidable. Et puis on rappelle toujours que peut-être du côté de Ogier et Ingrassia, n'oublions jamais les copilotes, il y a un déficit de notoriété peut-être côté français, hein, je dis bien, oui. Parce que c'est une grande vedette en Allemagne, on sait qu'il est marié à une présentatrice de télévision.
Oui, qui est presque d'ailleurs plus connu que lui. Hein.
Qui est presque plus connu que lui, là-bas on l'appellerait presque monsieur, je ne me rappelle plus de son nom. Oui. Mais donc là, le fait de courir pour un constructeur et de piloter pour un constructeur français, en l'occurrence Citroën, qui va communiquer à l'évidence sur les résultats qu'on espère bons, bah, ça va permettre peut-être à Ogier de compenser une partie de l'audience, je dirais, de la réputation qu'il n'a pas en France pour le moment.
Un dernier mot avant d'accueillir notre invité, Adrien. Si tu te mets ce midi dans la peau de Sébastien Ogier, comment tu prends le retour de Loeb pour 6 courses? Est-ce que c'est un défi? Est-ce que ça te plombe un peu?
Ah non, je me remets à bosser encore plus fort parce qu'il le connaît très bien, il sait qu'il va être redoutable et qu'il va pas faire les choses à moitié. Cette année, enfin l'année prochaine, il n'aura pas beaucoup d'autres choses à faire que le rallye et il aura 6 épreuves sur lesquelles se concentrer et il va donner les 100% Sébastien Loeb. Donc pour Ogier ça va être un vrai défi, pour autant que la Citroën soit un peu moins bonne que la Hyundai on sait pas. L'année dernière on avait un Neuville très performant, mais peut-être que Loeb va être encore plus performant avec cette voiture, j'en doute, parce que Neuville a une grosse pointe de vitesse donc peut-être qu'on aura même la surprise de voir un Loeb en difficulté par rapport à un Neuville. Tout ça, c'est très excitant pour nous.
Et là aussi, Neuville doit le prendre positivement, d'abord, parce que c'est comme ça. Mais je pense qu'il peut se dire aussi que le metteur au point, le peaufineur, le pinailleur qu'est Loeb, va apporter un plus à Hyundai, incontestablement, de toute façon.
Avec nous, un ancien pilote de rallye et de rallycross, 7 podiums, dont une victoire en WRC. Il est l'invité de Motors. Bonjour Guy Fréclin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Première question qu'on a envie de vous poser avec Jean-Luc et avec Adrien, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée de Sébastien Loeb chez Hyundai? Est-ce que c'est le bon choix à la fois pour le pilote et pour le constructeur?
De toute façon, je crois que Sébastien n'avait pas d'autre possibilité, puisque malheureusement Citroën, n'ayant plus son sponsor à Abu Dhabi, n'avait pas la possibilité de mettre une troisième voiture, ce qui est bien regrettable, parce que après avoir capitalisé sur l'image de Sébastien avec Citroën, depuis, moi j'ai découvert Sébastien en 98 dans nos formules de promotion, et je l'ai amené à son 4e titre quand j'ai arrêté en 2008. Ils ont continué ensemble et c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir continuer à capitaliser, mais bon, c'est comme ça. C'est bien dommage, mais c'est la réalité et je crois que Sébastien a bien fait d'accepter la proposition de Hyundai.
Jean-Luc.
Salut Guy, merci beaucoup de prendre du temps pour être avec nous, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Et puis t'as raison de le rappeler, c'est toi qui l'as découvert et qui l'a amené jusqu'à cette série de titres de champion du monde. Alors écoute, est-ce que tu penses aussi, il l'a dit un petit peu, hein, que la victoire qu'il a décrochée en Catalogne l'a incité à peut-être en faire plus, parce que il avait l'air de dire oh non, pas une saison complète, là on est quand même sur 6, c'est-à-dire une petite moitié de championnat du monde l'an prochain, et si, tu vois ce que je veux dire, et si il en gagnait quelques-uns dès le début de saison, saison. On sait qu'il sera au Monte-Carlo. Bon, il rentre du Dakar, hein. Ça va être peut-être un petit peu difficile.
Une seule journée d'essai, hein.
Ouais, ça va être très, très, très court. On peut penser, je sais pas si t'es d'accord avec ça aussi, Guy, que évidemment, les trois qu'il a couru cette saison, il va les aligner. Est-ce qu'il pourrait aller plus loin et en faire plus?
En fait, tout dépend comment ça va se passer. Il est bien évident qu'en rentrant du Dakar, la fatigue, ça va être très compliqué pour lui. Mais on sait aussi qu'il a toujours été très performant sur le Monte-Carlo. Si c'est un Monte-Carlo compliqué où la lecture du terrain est compliquée, on sait qu'il excelle dans ces conditions-là. Peut-être qu'il peut faire une belle perf au Monte-Carlo. Si tel est le cas, bon, ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'il puisse mettre la voiture au point. Enfin, quand je dis au point, c'est pour lui. Parce que on sait très bien que Sébastien souhaite que les voitures soient à sa taille, pour lui, comme il la veut, des voitures qui soient faciles à conduire et qui deviennent du coup très performantes. Donc peut-être que les réglages de vide ou de sordo sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, il y a tout ça. Et puis, en imaginant que ça se passe bien, puisque il va vers le Monte-Carlo, la Suède, derrière, on ne sait pas encore. On peut même tout envisager. Si, imaginons que ça se passe bien, peut-être qu'il aura envie de continuer. Voilà.
Ouais, je peux pas imaginer personnellement que s'il venait à être très très performant sur le premier rallye et à gagner un Monte Carlo. Bon, certes, comme vous le dites, il revient du Dakar, mais en même temps, les autres viennent d'un break. Lui, même s'il aura la fatigue, il reviendra d'une course où il a été concentré pendant un certain temps. Il va être affûté. Et puis c'est Sébastien Loeb, donc pourquoi pas aller gagner le Monte Carlo. Puis ensuite, voilà, c'est plus si affinité. J'imagine que les six rallyes, c'est un grand champion, un grand compétiteur. S'il gagne au début, je vois pas pourquoi il lâcherait, pourquoi peut-être que le programme deviendrait plus grand ensuite. J'ai des doutes là-dessus, moi.
Bah, tout dépend comment les réglages de la voiture vont les conduire pour le Monte Carlo, parce qu'il aura eu très peu d'essais possibles avec cette voiture. C'est un peu, ça va quand même être un peu le handicap qu'il va avoir par rapport aux autres. Et puis le décalage horaire en rentrant du Monte Carlo, et la fatigue. Faut quand même penser à ça. Mais bon. Espérons que, voilà.
Guy Fréclin, l'ancien pilote de rallye et l'invité de Motors en direct sur RMC et RMC Sport News, Jean-Luc.
Oui, on parlait effectivement, Guy, de son possible programme, déjà des six qui sont a priori signés. Donc on a le Monte Carlo, on a la Suède, ça commence bien. On va sûrement avoir quand même la Catalogne, puisqu'il l'a gagné, puis c'est un rallye qui lui convient bien. Je pense qu'on aura la Corse, évidemment, et peut-être le Mexique, t'es d'accord avec ça? Après, reste un à choisir le cas échéant, Guy, t'es à peu près d'accord avec ça?
Tant qu'à faire, autant qu'il fasse les rallyes qu'il a déjà fait cette année, ça lui permettra d'abord de refaire des rallyes qu'il aura reconnu une fois de plus, puisque ça fait quand même 5 ans qu'il a arrêté,
pour
l'oublier. Sur les autres rallyes, il sera bien sûr qu'il aura un handicap de connaissance, c'est évident. Mais s'il est performant dès le début, je vois mal Sébastien ne pas envisager d'aller plus loin.
Complètement d'accord.
C'est sûr.
Guy Fréclin, ma question s'adresse à vous, mais aussi à Jean-Luc et à Adrien. On l'a dit, il va revenir, s'il n'abandonne pas, souhaitons-le lui, tard du Dakar. Il n'aura qu'un jour d'essai avant le Monte Carlo. On fait quoi en un jour? À quoi ça sert, un jour?
Alors, on fait pas grand-chose. Par contre, tout dépend si la voiture lui convient déjà dans l'ensemble des réglages, je dirais dans le standard des réglages. Si c'est juste à peaufiner des réglages, tout va bien aller. Si par contre il faut aller un peu plus loin dans la recherche de performance dans les réglages pour lui, ce sera un peu plus compliqué. C'est vrai qu'en une journée on fait pas grand chose.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Guy. Ça sera plus le fait de savoir si la voiture convient dès le début à Sébastien. C'est pas lui qui aura du mal en un jour à se mettre dans le rythme. Ça j'ai aucun doute. J'ai aucun doute moi là-dessus. Ça le fera. Maintenant, si la voiture est un peu compliquée ou qu'elle ne sied pas vraiment à son style de pilotage et qu'il commence à être un peu mécontent de la voiture, bah c'est là où ça pourrait prendre plus de journées. Mais
on a le temps de régler des problèmes en si peu de temps.
S'il y a juste des petits ajustements à faire, oui. Mais si fondamentalement la base de travail, le setup n'est pas celui que Sébastien veut, ça sera compliqué. Maintenant, je suis sûr que il est déjà en relation avec les ingénieurs.
Bien sûr.
Je suis sûr que ça va aller dans le bon sens.
Jean-Luc.
Oui, deux questions en une, effectivement, Guy. La première, tu parlais de voiture qui lui convient, mais on sait qu'on peut modifier un certain nombre de paramètres, hein, c'est évident. Là, il aura peut-être pas le temps de le faire, mais alors, est-ce que le but de Hyundai, l'idée, bon, c'est d'apporter naturellement des victoires aux pilotes, mais surtout le titre constructeur. Est-ce que tu ne le penses pas, Guy? On sait que, bon, ce ne sont pas des Japonais, ce sont des Coréens, mais disons, pour les constructeurs, et tu es bien placé pour le dire, un titre constructeur, c'est au moins aussi important qu'un titre pilote. Or, évidemment, c'est peu de dire que Seb et Daniel peuvent apporter leur contribution.
Alors, pour un constructeur, c'est bien évident que c'est très important. Je me souviens d'ailleurs, en 2003, quand Claude Satinet, qui était directeur général de Citroën à l'époque, m'avait demandé de privilégier le championnat constructeur quand Carlos avait abandonné, et donc de demander à Sébastien de lever le pied par rapport à la bagarre qu'il y avait, c'était compliqué. Je comprends qu'aujourd'hui, Hyundai ait envie d'être d'abord champion du monde constructeur, c'est évident.
Merci beaucoup Guy Fréclin d'avoir été avec nous.
Merci Guy.
Un grand habitué de Motors. On vous retrouve très vite évidemment pour parler de WRC. Le premier rallye de la saison pour Sébastien Loeb, ça sera le premier rallye tout court. Le monde est bien fait. Ça sera au Monte-Carlo et ça démarre le 24 janvier. On vous l'a dit, Sébastien Loeb reviendra tout juste du Dakar. Le Dakar, on en parle dans un instant dans Motors avec Stéphane Peter Hansen, notre invité. Tout simplement l'un des plus grands pilotes français. 13 victoires en moto et en auto sur le Dakar. À tout de suite sur RMC et RMC Sport News.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Motors, en direct sur RMC et RMC Sport News. On est ensemble jusqu'à 14h avec Jean-Luc Roy et Adrien Tambay. Dans un quart d'heure, Radio Paddock avec Benoît Boutron. Il y sera notamment question de Formule 1, mais tout de suite, le Dakar.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Le Dakar 2019 qui débutera le 7 janvier prochain au Pérou et qui se conclura au Pérou et qui passera par... Le Pérou.
Le Pérou, ça tombe bien.
Jean-Luc. C'est la première fois dans l'histoire, c'est la 41e édition de ce Rallye Raid. Et c'est la première fois qu'il ne se déroulera que dans un seul pays. Est-ce que c'est une évolution logique pour cette course ou est-ce que c'est un désaveu terrible aux organisateurs?
Tu vas me permettre d'être un peu normand pour une fois. C'est un peu entre les deux. Non, mais tu sais que j'adore cette épreuve et que on a tous tellement appris, tellement vécu des choses extraordinaires qu'il faut la défendre par mon et par vous et par-dessus tout. Maintenant, non, c'est une réduction, c'est évident. Étienne Lavigne, l'organisateur et ASO le savent parfaitement. Malheureusement, cette année, on va dire que c'est un rallye qui est concentré d'abord sur seulement une dizaine de jours. Moi, j'ai connu des Dakar en Afrique où on partait 3 semaines, c'était autre chose, où on traversait 6 ou 7 pays, le kilométrage également est réduit, je crois que c'est 5000 kilomètres, on a été jusqu'à 12000 l'année où on a été jusqu'au Cap, donc bon, on va pas comparer ce qui n'est pas comparable, c'était une autre époque, c'est pas pour dire c'était mieux avant une nouvelle fois, mais c'est vrai qu'on peut le regretter, malheureusement, les autres pays d'Amérique du Sud, puisque le Dakar avait dû émigrer pour les raisons géopolitiques que nous connaissons tous, avait dû émigrer en Amérique du Sud en 2009, et c'est vrai qu'on avait plusieurs pays, il y avait beaucoup l'Argentine, il y avait le Chili, on est passé également en Bolivie. Exactement, et au Pérou, et là, malheureusement, cette année,
est-ce que c'est pas reculé pour mieux sauter, Jean-Luc? Est-ce qu'un retour en Afrique n'est pas envisageable dans le futur?
Il est plus qu'envisagé, Adrien. Okay. Effectivement, tu es bien renseigné, puisque j'ai l'occasion d'en parler régulièrement avec Étienne aussi, Lavigne. Alors c'est vrai le patron du Dakar. Le problème de l'Afrique, il est complexe, malheureusement, de manière géopolitique. On le sait bien. Il y a tout un tas de pays où on aimerait. Je suis certain que les populations, il faut toujours le rappeler, adoreraient que le Dakar revienne. Malheureusement, l'insécurité qui y règne rend ce projet impossible. Alors, retourner où au Dakar? Il y a certains pays, heureusement, d'Afrique qui sont stables politiquement, peut-être en Afrique du Sud, donc l'Afrique du Sud en elle-même, ou bien à côté, en Namibie, au Botswana. Donc ça, c'est peut-être possible. Alors, on parle aussi de certains autres pays. On parle de pays du Golfe, par exemple, où il y aurait de la place. C'est clair que ce retour en Afrique... Je pense qu'il est inéluctable parce que les racines du Dakar, elles sont là-bas. Et que tôt ou tard, il faudra que le Dakar revienne. D'ailleurs, cette appellation générique, le Dakar, qui choque certains, on rappelle que maintenant, c'est devenu un label, en fait. Bien sûr, c'est une ville, d'abord, la capitale du Sénégal. Et là aussi, je rappelle quand même que les premiers Dakar, quand on arrivait là, on était tellement contents d'avoir franchi le désert qu'on se jetait à l'eau. Enfin, on avait vaincu le désert.
Mais à l'époque, ça arrivait vraiment à Dakar et ça partait vraiment de Paris.
Ah, ça partait vraiment de Paris. Et alors, on parlera de l'Africa et Corail aussi. Parce qu'on en parlera la semaine prochaine avec Jean-Louis Schlesser et René Metsch qui fait les recos. Et puis moi, bon, les dernières fois où je suis parti là-bas, c'était avec Patrick Zaniroli aussi, c'était la Transafricaine classique, le Dakar des vieux, ça me va bien aussi, c'était dans les années 2006-2007, on partait de Paris, on arrivait à Dakar.
Adrien, ça te fait rêver le Rally Raid?
Oui, clairement, tout simplement parce que moi, mon papa avait fini la Formule 1 quand je suis né, et c'est quelque part les seuls, je sais pas quel âge j'avais quand il faisait le Dakar, mais j'étais tout jeune, mais en tout cas, c'est des souvenirs que j'ai aussi de lui en course automobile, et il m'a clairement dit que c'était une des plus belles expériences qu'il ait vécues en sport auto. J'ai eu la chance de faire deux rallyes assez dangereux, le rallye du Var et le Monte Carlo, et je pense que le rallye Raid c'est complètement autre chose, mais quand on voit les paysages et l'aventure que procure un rallye en partageant avec un copilote, moi clairement ça me fait rêver. Après, je suis un compétiteur, donc le jour où je le fais, ça sera dans de bonnes conditions, mais ouais, avec grand plaisir.
Il est peut-être l'incarnation de l'épreuve à lui tout seul, un homme dont le nom entre dans vos vies chaque année, début janvier. Un homme qui a remporté 13 des 25 dernières éditions du Dakar. Cet homme, eh ben, il est l'invité de Motors. Bonjour Stéphane Peter-Hansel.
Oui, bonjour à tous.
Merci
bonjour,
beaucoup d'être avec nous. Le Dakar 2019, on l'a dit, débutera le 7 janvier prochain pour la première fois de l'histoire dans un seul pays, le Pérou. Est-ce que vous êtes déçu, vous Stéphane Peter-Hansel, de ne parcourir qu'un seul état cette fois-ci?
Ah, écoutez, je crois que si en Amérique du Sud on devait garder qu'un seul pays, le Pérou est le meilleur d'entre eux. Il y a vraiment beaucoup de grands déserts, des grandes dunes, des paysages magnifiques, et je pense que même si on reste que sur le Pérou, on va avoir un Dakar très sélectif et très compliqué.
Jean-Luc.
Oui, salut Stéphane, merci d'être avec nous. Je sais que tu dois être en pleine préparation. Alors, changement d'équipe pour toi, évidemment, l'équipe Peugeot, on le sait, a arrêté le Dakar. Donc, mm-hmm. tu es parti chez Mini, en bonne compagnie, parce qu'on peut dire que vous êtes une sacrée équipe avec Cyril Després et Carlos Sainz, en deux roues motrices, dans les dunes. Alors, parle-moi de ça, effectivement, on sait que tu as une expérience considérable, Louis le rappelait il y a un instant, avec tes 13 victoires, ce qui paraît toujours ahurissant, même pour nous, pourtant, je les ai toutes vécues, mais
il a gagné plusieurs fois en une roue motrice seulement.
Oui, c'est ça, c'est clair. Oui, il serait capable, de toute façon. Donc, j'en viens à ma question pour la faire simple. Changement d'équipe pour toi en deux roues motrices dans les dunes. Est-ce que t'as peur? Allez, on y va carrément.
Ouais. Bah, en fait, les quatre dernières années avec Peugeot, j'ai découvert la conduite d'un buggy. Mm. Et en fait, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. En fait, ça me rappelle presque le pilotage de la moto, parce que en fait, pour rouler vite avec un buggy, il faut tout simplement glisser, mais pas trop. Il faut avoir des grandes dérives, un peu à la manière comme on conduit une moto. Et ça a des grands débattements, ça permet de sauter un peu plus, et c'est très fin en pilotage, donc ça m'a vraiment plu. Donc c'est pour ça que chez Mini, après l'arrêt de Peugeot, donc la possibilité chez Mini, elle était soit de courir avec un 4 roues motrices, ou soit de continuer à développer ce buggy Mini, et c'est ce qu'on a décidé de faire avec Carlos Sainz, avec Cyril Després, et ça se présente plutôt pas mal. La voiture est sympa à conduire, avec un moteur diesel, de la performance, des bonnes suspensions, et donc on devrait s'amuser, et j'espère faire de bons résultats.
Alors ça va être un Dakar condensé, Stéphane. On sait que effectivement t'as du coffre, t'as rappelé les victoires à moto, puis là c'était une autre paire de manches parce qu'il fallait naviguer aussi. Par parenthèse, je crois que t'as changé de copilote, c'est ça cette année?
Ouais, il y a eu quelques épisodes cette année. Tout d'abord, c'était au retour du Dakar 2018. J'étais pas sûr de vouloir continuer après l'arrêt de Peugeot. Parce qu'on avait passé vraiment des belles années, et je trouvais pas la motivation, et ensuite je me suis dit peut-être le faire différemment, et mon idée c'était de le faire avec mon épouse comme copilote, qui a été elle-même pilote sur le Dakar, qui a fait beaucoup de courses, et donc on est parti dans cet objectif-là. Malheureusement, elle a un problème d'oreille interne, donc ça n'a pas pu se faire. Et entre-temps, j'avais libéré mon copilote de toujours, Jean-Paul Cotteret.
Polo.
Et donc, voilà, il a fallu se réorganiser dans les 2-3 derniers mois avant le départ du Dakar pour trouver un nouveau copilote. Et c'est David Castera, en fait, tout simplement, qui était mon ancien coéquipier chez Yamaha quand on roulait sur le Dakar ensemble, qui depuis avait été directeur sportif de l'épreuve Dakar, et maintenant il sera mon copilote pour le prochain.
Stéphane, je me souviens que quand vous êtes engagé pour la première fois avec Peugeot sur le Dakar, vous aviez dit, à l'issue de cette compétition que vous aviez évidemment gagné, que c'était votre rêve de gagner avec Peugeot. Est-ce que quand on a tellement participé à cette épreuve, quand on la connaît si bien, il faut justement ce genre de défi comme celui que vous allez relever cette année pour garder la motivation et avoir encore envie d'y aller?
En fait, c'est marrant, mais à chaque fois, je me repose la question, est-ce que je vais continuer ou pas? Et il se passe quelques mois, et après quelques mois en restant inactif, la passion, l'envie de courir, des montées d'adrénaline, et puis aussi l'envie de développer une voiture, de faire progresser une voiture me manque. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'y retourne, et j'ai pas besoin, en fait, d'une motivation spéciale. C'est juste la passion qui me pousse à y retourner, en fait.
Alors, quel sera ton programme, justement, Stéphane? Tu as signé déjà pour une seule édition ou pour plusieurs? Et qu'est-ce que tu vas faire le reste de l'année, puisque tu le disais? Je sais que tu t'occupes bien, mais je veux dire, en matière de compétition.
Ouais, alors tout d'abord, court terme, c'est essayer de faire le meilleur résultat possible sur le prochain Dakar avec David Castera comme copilote. Mais l'idée de continuer la suite une deuxième année avec Mini, mais vraiment avec mon épouse comme copilote, elle est quand même d'actualité. Donc probablement dès le début de saison prochaine, on va essayer de faire des rallyes de préparation, le rallye de Dubaï, le rallye du Maroc, en fait différents rallyes tout au long de la saison pour éventuellement préparer le Dakar 2020 ensemble. Donc théoriquement, il devrait encore avoir deux Dakar pour moi.
Bon, ça c'est génial, écoute, c'est une super bonne nouvelle, et évidemment. Et puis je sais que tu fais quand même quelques courses de moto pour te marrer et te maintenir en forme, ça continue ça?
Ouais, c'est ça. Alors c'est toujours un peu à double tranchant, parce que se maintenir en forme, c'est sûr, ça fait vraiment beaucoup de bien. Par contre, je fais beaucoup moins d'entraînement, donc je suis toujours un peu sur le fil du rasoir, j'ai envie d'aller vite, je maîtrise un peu moins bien, et la chute est jamais très loin, donc il faut quand même faire attention. Mais c'est vrai que la moto reste quasiment ma passion principale. J'ai l'impression d'être plus un pilote de moto que de voiture, en fait.
Ouais, 13h33 sur RMC Sport News, Stéphane Peter-Hansel et l'invité de Motors. Question d'Adrien Tombé.
Non, pas question, mais moi je suis complètement fan, en fait, de Stéphane, parce que j'étais tout petit quand je le voyais sur le
Dakar.
Ça, c'est
le tac, là, après, et, le compliment.
Non, pas du tout. Pas du tout, mais alors pas du tout. Et mon papa était fan aussi, et ma maman aussi, et je me souviens d'un jour où il était sur le trophée Andros au Stade de France, où il était tombé, il s'était fait quasiment roulé dessus, il était reparti dernier, il avait gagné la manche, en moto, sur le pilote bike. Donc, moi, beaucoup de respect pour Stéphane, et j'avais juste envie de le dire, c'est pas une question, mais voilà.
Bon, il a rosé,
c'est ça, on l'a vu au téléphone. Bon.
Merci, tu devais pas être très grand à l'époque de ces courses au Stade
non.
de France. Hein.
Non.
Non, il voyait pas derrière la barrière.
Stéphane, question, est-ce que vous pouvez nous raconter les semaines qui vont arriver jusqu'au 7 janvier? Comment on monte tranquillement en pression, comment on se prépare physiquement, et quand est-ce que vous allez arriver au Pérou, tout simplement?
C'est un peu comme d'habitude, les derniers essais en voiture ont été faits en octobre, mi-octobre. Après, on a juste fait un petit check-down de la voiture de course qu'on utilisera pour le Dakar. Et depuis, c'est plutôt consacré à la préparation physique. Donc, comme tous les ans, les 6 derniers mois avant le Dakar, je force sur le sport d'endurance, beaucoup de vélo, VTT, vélo de route, course à pied, ski de randonnée, enfin tout ça, des sports qui nous demandent de la concentration et du cardio sur plusieurs heures. En fait, je fais pas beaucoup de fractionné, mais plutôt de l'endurance.
Ouais. Stéphane, tu as choisi un copilote donc qui est un ancien motard aussi. C'était important pour toi. Puis on sait que il a roulé avec Cyril Desprez, bien sûr, David Castera. Ouais. Donc là, on retrouve un esprit particulier quand même entre motards.
Ouais, on s'est toujours très très bien entendu avec David. Après, il a énormément d'expérience en tant que directeur sportif du Dakar pendant presque 10 ans. Il a beaucoup d'expérience sur l'Amérique du Sud. Il a été formé après en tant que copilote par Cyril Desprez, qui est très exigeant. Donc il a eu un bon professeur, je dirais. Et puis maintenant, on va partager un moment sympa ensemble. Pour lui, c'est en fait one shot, parce que David Castera avait décidé tout simplement d'arrêter le métier de copilote pour se consacrer à une organisation qui vient de reprendre en main le rallye du Maroc. Et donc, après ma demande, il a dit non, avec toi, ça a énormément de plaisir que je retourne faire un Dakar de plus avec toi. On a vraiment de très bonnes relations. Donc, j'espère que ça va bien marcher, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de rallye ensemble avant. On n'a fait qu'une Barra au Portugal en tant qu'entraînement, quelques jours au Maroc. J'espère que la mayonnaise va bien prendre entre nous deux.
Stéphane, est-ce que c'est un vrai avantage d'avoir fait le Dakar avant en moto et de l'avoir gagné? Parce qu'en l'occurrence, au final, vous êtes maintenant deux navigateurs dans la voiture par rapport à un pilote qui est simplement pilote et qui n'a pas eu cette expérience de navigation. Est-ce que c'est un avantage pour vous?
Bah, je pense, hein, depuis toujours, dès le début, j'ai senti que ce que j'avais appris en moto me servait à tout moment en voiture. Quand on est dans des galères de navigation, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, ben on a deux personnes qui ont un œil avec beaucoup d'expérience, qui sont capables de prendre des décisions. Donc forcément, c'est un plus. Après, il faut quand même pas trop déborder le pilote. Il faut pas trop qu'il déborde sur le métier du copilote, parce que c'est quand même lui qui a toutes les mains en cartes, les cartes en main, pardon. C'est lui qui a vraiment tout le roadbook sous les yeux et une petite aide du pilote de temps en temps, c'est bien, mais il faut pas trop non plus s'en mêler.
Oui, Stéphane, je vais te faire rosir et rougir à nouveau. Moi, là où tu m'as bluffé, mais franchement, parce que quand même, je connais un peu la partie depuis longtemps, c'est quand on a vu arriver des pilotes du championnat du monde des rallyes. Parce que longtemps, le Dakar, c'était oui, bon, d'accord, il roule
un
longtemps.
Pour ne pas le citer, par exemple.
Exactement. Hein. Et je vais le dire, qui n'a pas réussi à gagner le Dakar avec la même voiture que Stéphane Peter Hansel, Carlos Sainz également, bon, qui a gagné l'an dernier. Mais Stéphane, j'en viens à ma remarque et tu réponds ce que tu veux. Mais savoir que t'es aussi rapide que même sur des spécial, c'est-à-dire que c'est pas à l'endurance, c'est aussi un pilotage qui est totalement différent de celui des rallyes de championnat du monde. Moi, je dois t'avouer que ça m'a vraiment bluffé.
Ouais, alors ça a déjà monté d'un ton quand Carlos Sainz est arrivé à l'époque de Volkswagen. Après, bien sûr, Seb est arrivé. Et là, il y a eu des Dakar, justement, qui étaient aussi très différents de ce qu'on trouvait en Afrique. Il y avait beaucoup de pistes, en Argentine, beaucoup de pistes façon WRC. Et il fallait essayer de faire jeu égal avec des pilotes de WRC. Non, aujourd'hui, c'est sûr que des pilotes comme Carlos ou même comme Sébastien restent plus rapides sur des pistes très typées WRC. Mais c'est jamais que ça sur un Dakar. Il y a une ou deux journées qui sont vraiment de la navigation ou des grosses difficultés d'une. Et c'est là qu'il faut saisir sa chance, l'opportunité de repasser devant eux. Mais il faut être non plus pas très loin quand c'est du technique. Donc, on a progressé, mais on s'est quand même pas rapproché. Je suis quand même pas au niveau de Sébastien sur des pistes purement WRC, ça c'est sûr.
Oui, mais justement, Stéphane Peter Hansel, sur les Dakar où vous étiez coéquipier de Sébastien Loeb ou de Carlos Sainz, précisément, c'était ça votre stratégie de course tout au long des 15 jours. C'était essayer de ne pas être trop loin sur des spéciales typées WRC et faire la différence là où il y a de la navigation et là où vous êtes dans votre élément. Comment vous allez construire une stratégie de course pour ce Dakar-là 2019?
Alors, ce Dakar, en fait, c'est un Dakar vraiment avec beaucoup, beaucoup de grands espaces, du désert, qui est pas du tout à l'avantage des pilotes de WRC. Donc là, on va essayer de, comme d'habitude, la stratégie, c'est de rester au contact, et un jour où on le sent mieux, ou un jour où on a vraiment une bonne opportunité aux navigations, on essaye de faire la différence et de rouler à 100% ce jour-là. Mais le truc sur un Dakar, c'est que si tous les jours on se met à la limite, eh ben forcément on va finir par faire une erreur. C'est-à-dire que rouler pendant 10 000 km à 100%, forcément ça y a un moment où ça passe plus. Donc il faut limiter les jours où on se lâche complètement. Donc c'est ça un peu la gestion d'un Dakar.
Stéphane, l'autre différence de ce Dakar, c'est que tu vas pouvoir passer le premier de l'an en famille, parce que ça c'est rare.
C'était ma dernière question, j'allais y arriver.
Ah ben, désolé de te l'avoir enlevé, mais j'allais dire, on parle d'un retour en Afrique, tu le sais bien. Est-ce que tu le souhaites? Ça dépend des conditions et du pays naturellement, mais ça nous rappellerait quand même des sacrés bons souvenirs.
Bah, je l'ai toujours dit, s'il devait rester qu'un seul Dakar, je préférais que ça soit celui africain qui reste. Mais aujourd'hui, on sait que c'est encore un peu compliqué. Si ça retourne en Afrique, ça sera forcément avec beaucoup de plaisir, ça c'est sûr.
Un dernier mot, Stéphane, pour prolonger quand même justement la question de Jean-Luc. C'est vrai, les précédents Dakar commençaient beaucoup plus tôt. Là, le 7 janvier seulement sera donné le départ. Est-ce que vous allez passer le nouvel an en famille?
Alors en famille, ça va être une petite famille, mais ça sera avec mon épouse. Mais pour la première fois, en fait, je pars un peu plus tôt, pratiquement une dizaine de jours avant le départ de la course, pour visiter le Pérou, aller voir le Machu Picchu et faire un peu de tourisme avant la course.
C'est magnifique. Profitez-en bien. Merci beaucoup Stéphane Peter Hansel. On se reparlera sans doute après ce Dakar 2019. On vous le fera vivre, hein, évidemment, sur RMC dans Motors, avec Antoine Grenapin qui sera sur place et qui nous racontera les histoires de ce Dakar 2019. A tout de suite, on revient dans un instant sur RMC, sur RMC Sport News, il est 13h40. Benoît Boutron sera là pour Radio Paddock avec notamment des nouvelles de F1.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Motors en direct sur RMC, à la télé sur RMC Sport News. On est ensemble jusqu'à 14h avec Adrien Tambay, avec Jean-Luc Roy. Christophe Cessieux prendra la suite à 14h sur RMC pour l'Intégral Sport. Je vous rappelle l'événement de l'après-midi, 17h30, c'est la finale de l'Euro féminin de handball entre la France et la Russie à Bercy. On suivra ce match évidemment en direct et en intégralité cet après-midi sur RMC. Benoît Boutron est là, lui aussi s'est fait tout beau. C'est Radio Panel.
RMC Motors. Radio Paddock.
Salut Benoît Boutron.
Salut à tous. Normalement, il n'y a que Benoît. Jean-Luc Roy qui met des chemises le dimanche.
Ouais, hein. Mais là, on y est tous. Ouais,
vous y êtes tous.
J'étais
précurseur.
Tu es le premier d'entre nous. Et t'étais bon. Précurseur aussi. Non, je ne vais pas faire cette transition-là.
Non, 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 non.
Tu vas venir, Benoît. Oui. On peut pas la faire.
Moi aussi, je savais que t'allais la faire.
On ne peut pas parler de Formule électrique sans fixer le regard du king Jean-Luc Roy. Eh oui. C'est parti, la saison est lancée. Jean-Luc.
Mais j'ai même regardé la course.
Non,
non, mais parce que je suis un professionnel.
Donc c'était en Arabie Saoudite, ouais, avec la victoire d'un Portugais, Antonio Félix da Costa, sur BMW, la première victoire de BMW. Bon, on parle assez peu de Formule électrique, dans Motors on l'évoque quand même quelques fois. Ce qu'on peut dire, c'est que ça y est, il y a eu un Grand Prix de 45 minutes, sans arrêt. Donc la voiture a tenu, la voiture électrique a tenu 45 minutes.
Elle a tenu, et bon, il faut leur rendre hommage. Enfin, tu me diras qu'une voiture fonctionne pendant 45 minutes.
Ah, non, oui, moi, c'est voilà, pas. On a
il y a eu quand même un gros problème, tu sais, ils ont un extra super, je sais pas quoi, pour avoir un petit peu plus de puissance,
un 25 boost, kilowatts. C'est comme aux jeux vidéo.
Voilà, sauf qu'il faut passer entre des fourches codines apparemment, et que ça marche pas à tous les coups. Hein. C'est un coup sur deux. Ouais. Bon, je suis sûr que ça va s'améliorer.
On t'avait prévu les sons d'aspirateur pour te rappeler le moteur.
C'est pas mal. Je fais pas de pub, mais Dyson, ça contribue très bien.
Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un Français, Jean-Éric Vergne, qui est quand même très performant, qui a terminé deuxième, qui aurait pu gagner,
qui a été pénalisé,
et copé d'une pénalité, tout comme son coéquipier belge d'ailleurs, Jérôme D'Ambrosio.
On a un deuxième. André Lotterer, pardon, c'est un Allemand.
Lotterer, pardon, ouais, effectivement. Ouais.
Et Massa finit loin, hein, il finit 14.
Massa finit 14, et pourtant il dit que c'est éclaté. Effectivement, oui. Je sais pas si t'as vu les.
Il y a eu beaucoup de dépassements quand même, hein. On peut dire ce qu'on veut, il y a eu pas mal de dépassements.
Oui.
Ça va pas aussi vite que d'autres sports automobiles.
Ça va pas très vite, mais. Bon.
Mais il y a eu des dépassements et on a un Français qui est devant.
Et puis les pilotes font leur métier.
Et là, je pense que c'est
leur métier. Ce sont les pilotes.
Il y a que des pilotes.
Et en plus, ils sont payés pour faire ça. Ils ont raison de le faire.
Mais sans blague, Adrien, toi, ça t'intéresse? Tu suis ce championnat?
Ça m'intéresse, oui, parce que j'ai tous mes potes qui sont dans ce championnat et Da Costa a roulé en DTM avec moi quand il était avec BMW. Je les connais tous. Il y a que de la qualité en termes de pilotes. Après, c'est voilà, c'est un peu dommage pour le sport auto aujourd'hui que les meilleurs pilotes aient besoin de se retrouver dans ce championnat-là qui, pour moi aujourd'hui, n'est pas prêt. C'est-à-dire que c'est pas, on le met au niveau de la Formule 1 alors que ça ne va pas. Non, mais c'est voilà, c'est peut-être dans 7 ans. Peut-être dans 3 ans, mais aujourd'hui, pour moi, ça va pas assez vite. C'est spectaculaire pour les gens, c'est intéressant pour certaines personnes, et c'est dur quand on y est, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, et parce que ça reste compliqué pour aller gagner un championnat.
Est-ce que quand on est un ancien pilote de Formule 1, qu'on se retire du milieu comme Felipe Massa, ou qu'on a un peu poussé dehors, il y a aussi de ça, presque champion du monde quand même il y a 10 ans de Formule 1, est-ce qu'on arrive dans cette discipline, à ton avis, Adri, un peu sûr de soi, un peu sûr, bon ça va, j'ai fait des grands prix de 2h30 sous la pluie à Suzuka. Je vais bien pouvoir rouler 3/4 d'heure à Hong Kong.
Je pense que Felipe Massa est quelqu'un d'intelligent, donc je pense qu'il n'arrive pas comme ça et qu'il sait très bien que ça va être compliqué, tout simplement parce que pendant des années il a été en Formule 1 où il a été opposé à un seul coéquipier. Aujourd'hui il arrive dans un championnat où il est opposé presque à toute la grille parce que les écarts sont bien plus resserrés qu'en Formule 1. C'est quand même un sport un peu spécial par moment et effectivement.
C'est quasiment une formule monotype.
Voilà, c'est quasiment aussi, encore une formule monotype et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est encore spectaculaire parce que peut-être que le moment où BMW est arrivé, Audi est arrivé,
Renault, c'est ça de place tu connais
mais au bout d'un moment si les constructeurs arrivent, s'il y a plus d'argent qui arrive dans ce championnat, peut-être que les écarts vont se faire et que ça va devenir un peu moins spectaculaire.
Et puis on rappelle juste que Massa a été pénalisé malheureusement 2 fois, alors pour des subtilités du règlement, moi j'avoue que je n'ai rien compris là aussi. Et je pense que lui non plus, non, parce qu'il a utilisé apparemment un surcroît de puissance, donc il aurait trop utilisé de la puissance, alors pour ça qu'on l'a sanctionné, et c'est pas le seul. Moi j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ça, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver.
On a du mal avec la gestion en sport auto, la gestion des pneus,
parfois.
Tout ça, ça nous agace un peu aujourd'hui.
Moi j'aime pas quand on gère, il faut y aller flat out comme on dit.
Est-ce que sans blague pour le coup, la F1 pourrait s'inspirer de certaines choses de la FE? Est-ce qu'il y a quand même un peu de positif à en tirer?
Oui. Alors. Oui Jean-Luc, oui. Bah, par exemple, les circuits en ville, les circuits en ville. Aujourd'hui, en Formule 1, on vient oui, au public.
Là, ce sont des circuits de cartes. Hein. Enfin, ça fait un kilomètre.
Oui,
5,
mais il faudrait l'adapter à la Formule 1. Regarde Singapour, Jean-Luc. Ah, c'est quand même des circuits où il y a beaucoup de spectacles et où on vient au public.
On n'a pas attendu la Formule 1 pour faire des courses en ville. Monaco depuis une éternité. Et puis là, il y en a d'autres. Il y a eu Macao, que tu connais par cœur aussi. Donc je pense que non. Là, il faut pas se tromper. Il faut pas. Bien sûr que. D'ailleurs, on fait ça en Formule 1 pour ne pas qu'on puisse comparer. Parce que si on les met sur un vrai circuit, j'ose dire, et qu'on peut comparer les performances avec des vraies performances, on n'arriverait même pas aux performances de la Formule 3. C'est ce que je rappelle tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument pas comparer la Formule électrique avec des formules classiques pour le moment. Ça viendra peut-être. Hein. Là, je suis d'accord aussi. Mmh. Pour le moment, on en est loin. Enfin, c'est mon avis.
C'est le sens de l'histoire.
C'est le sens de l'histoire, paraît-il.
C'est ça, Jean-Luc.
Et on en parle régulièrement dans Motors, mais on rappelle que en moto aussi, il va y avoir un championnat électrique sur certains rangs.
Sur seulement 5 courses. 5 courses, un nombre de tours réduit.
Et ça va exister, voilà.
Ça va exister.
On y arrive. Ouais.
Alors, justement, mais organisé par Dorna, par le MotoGP.
Voilà. On passe à la F1, Benoît, justement.
La F1, justement, vous parliez de circuit mythique. On va parler du circuit de Monza, puisque vous le savez, c'est une des légendes du championnat de Formule 1.
Le temple de la vitesse.
On attend le centenaire avec impatience, ce sera pour 2022, mais il faut négocier puisque le contrat pour l'instant court jusqu'en 2019 et du coup les autorités italiennes cherchent de l'argent pour pouvoir continuer à bien obtenir ce Grand Prix. Ce qu'on peut dire, c'est que si le Grand Prix est maintenu jusqu'en 2022, le tracé est susceptible d'être un peu modifié puisqu'il y a eu quelques problèmes à Monza, notamment la première chicane où il y a eu nombreux incidents et le second virage aussi, Jean-Luc. Mais il faut que Monza reste en Formule 1, c'est quand même un circuit mythique.
C'est dommage la première chicane, non Jean-Luc?
Oui, elle a bien évolué. Hein. Honnêtement, il y a eu dans le passé des problèmes beaucoup plus compliqués que celui-là. C'est un véritable entonnoir. De toute manière, la piste est assez large et surtout les pilotes arrivent à les bonnes années à 350 km/h. Donc c'est toujours des freinages qui sont très très délicats. Et puis il faut effectivement essayer de rester calme parce que la course ne se joue pas au premier ni à la deuxième chicane, tu l'évoquais. Je crois qu'il est question aussi de modifier le deuxième Lesmo lui donner plus de vitesse justement parce qu'il y a également il y a beaucoup de lignes droites à Monza, mais on rappelle que c'est là avec Silverstone que les vitesses les plus élevées ont été atteintes et les records du tour à plus de 250 km/h de moyenne. Donc il faut que là aussi cette vénérable institution évolue parce que c'est vrai que les chicanes ça a toujours été créé d'une manière artificielle pour ralentir la vitesse. Et malheureusement, je l'évoque à chaque fois, mais la première avait été créée suite à l'accident de moto où Jarno Saarinen et Renzo Pasolini avaient perdu la vie en 73. Vous n'étiez pas né, mais moi, oui. Et c'était un drame absolu. Donc, pour casser la vitesse avant cette curva grande, on avait créé les chicanes. Donc oui, Monza, je l'espère en tout cas, perdurera, survivra. Et puis, il faut l'adapter, bien sûr. Il y a des arbres aussi. Hein. C'est le problème. Dès qu'on coupe 3 arbres, il faut replanter 15. C'est à peu près la proportion.
Oui, en fait. Et ouais, on parle de supprimer tout simplement la deuxième chicane et donc de revenir vraiment à grande vitesse avant le premier Lesmo. Moi je suis tout à fait d'accord pour ça et c'est bien, mais j'espère juste qu'on ne rendra pas le circuit du coup trop sécure, trop safe, ouais. Parce qu'on a aussi parlé d'élargissement de la trajectoire et je préférais à la limite qu'on laisse le circuit comme il est aujourd'hui, dans la tradition avec un circuit qui est pas trop large et qui a vraiment de l'attrait pour les pilotes et pour le spectacle parce que c'est à double tranchant. Bon, je pense aussi que on fait ça pour faire parler de Bien Monza sûr. Et pour faire un peu monter la sauce pour qu'on soit sûr qu'il reste au calendrier.
Alors,
c'est
ça
positif.
Me fait plaisir que tu dises ça. Évidemment, dès qu'un jeune pilote apprécie. Non, mais c'est vrai parce que on le dit à chaque fois. Le sport mécanique, ça doit rester un sport. J'ose le dire, dangereux, parce que c'est ça, c'est la décharge d'adrénaline, et ça, c'est irremplaçable, tu le sais bien. Juste un mot, je crois qu'il est question de 100 millions de dollars pour faire ces travaux. Bon, je crois que c'est très bien, ça fait parler, comme tu dis, de toute façon, il faut que le circuit évolue, mais surtout qu'il perdure, donc qu'un nouveau contrat soit signé, et puis après, si le circuit doit évoluer, ce sera une très bonne nouvelle.
Le gouvernement italien fait extrêmement attention à ce sujet-là, et notamment le gouvernement de la région Lombarde, puisque les élections sont évidemment aussi régionales en Italie, et le pouvoir qui prendrait le risque de ne pas renouveler le contrat en région Lombardie, franchement, il prendrait cher à la prochaine élection.
Je pense que là, les tifosi, le nom, on sait d'où il vient. On sait pourquoi. Et puis, il y a une écurie en rouge, je crois.
Elle
est toujours là.
Bon,
voilà.
Et d'ailleurs, petite info qui vient de tomber à midi, la nouvelle Ferrari 2019 sera présentée le 15 février.
Ouais, à trois jours des premiers essais, des premiers tests de Barcelone, auxquels on va évidemment.
Et au lendemain de la Saint-Valentin, faut-il y voir. Hein, Benoît, on enchaîne.
Oui, parlons un peu d'aéro, puisqu'il y aura des petites modifications en 2019. Si j'ai bien compris, l'idée globale, c'est de faciliter la course un peu en peloton pour que les voitures puissent se suivre. Donc, il y aura des ailerons a priori plus larges et simplifiés. Hein, ça touchera également les conduits de frein, mais c'est ça l'idée. Messieurs, c'est de faciliter justement la bagarre en course.
Ben, clairement, le problème maintenant, c'est que les dépassements en ligne droite interviennent majoritairement à cause du DRS. On sait que c'est ce système qui permet d'effacer une partie de l'aileron, donc de gagner 10 à 15 km/h. Alors, il y aura toujours le DRS, mais là, les perturbations aéro seraient moins importantes. Et évidemment, j'espère qu'Adrien va appuyer ce que je dis. Donc, ça permettrait à un pilote, naturellement, je dirais plus rapide, de rejoindre un autre pilote et de le dépasser. Alors, de manière plus évidente, et même pour les pilotes attardés, j'aime pas trop le mot non plus, mais à qui on prend un tour, où là, même les leaders, si on ne signale pas au pilote qui est moins rapide, il faut un écart d'au moins 2,5 à 3 secondes au tour pour parvenir à passer. Donc là, ça devrait faciliter un petit peu ou rendre moins difficile le dépassement.
Ouais, en fait, ce qu'on essaye de faire avec cette nouvelle réglementation, c'est de simplifier l'aérodynamique des monoplaces avec un aileron avant et un aileron arrière qui comprendront moins d'appendices, qui eux procurent des vraies perturbations aérodynamiques et qui empêchent de suivre les concurrents. Et en plus de ça, on les rend plus gros et plus larges pour donner plus d'appui. Donc même en suivant une voiture, on devrait être capable de s'approcher un peu plus. Maintenant, c'est qu'une estimation, c'est que des simulations, ça n'a pas été encore vérifié. Donc voilà, il faudra attendre la première course.
Mais très concrètement, si on se fie à ces simulations, Adrien, Jean-Luc, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir de plus belles courses ?
Si effectivement on arrive à mieux suivre le pilote qui nous précède et qu'on arrive à le dépasser en l'occurrence plus facilement, oui.
Est-ce que ça va resserrer un peu les niveaux ? Est-ce que ça veut dire qu'on pourra voir même un pilote de milieu de gamme, que ce soit en termes de talent ou en termes d'écurie, dépasser un Cador ?
Je pense qu'il faudra aller plus loin. Je pense que ça va peut-être faire ce qu'ils attendent, c'est-à-dire 20%, augmenter les probabilités de dépassement de 20%, mais il faudra aller plus loin dans le futur pour que la grille se resserre et pour voir un pilote, pour avoir une surprise d'un Grand Prix sur l'autre.
Voilà, comme l'a dit Ross Brown, qui est donc le grand maître maintenant intégré
directeur au sein, sportif de la Formule 1. Voilà,
directeur technique auprès de Liberty Media.
Oui, c'est ça.
Et donc, il travaille sur le règlement 2021, hein, pour les nouveaux accords Concorde. Donc ça, c'est un premier pas, mais il est prêt à dire aussi que peut-être ça ne suffira pas lui-même, il connaît ça par cœur, Ross Brown, hein, il a mené l'écurie Ferrari à de nombreux titres de champion du monde, donc et même sa propre équipe au titre de champion du monde, faut-il le rappeler, avec Button en 2009, donc une seule année de participation et deux titres de champion du monde, donc il connaît ça par cœur. Le problème, c'est que les négos, comme toujours avec les gros de la Formule 1, qui pour le moment ceux qui dominent, ils veulent changer le moins possible pour préserver leur domination. Mais pour aller dans ton sens, oui, là j'oserais dire, pour caricaturer également, qu'on va un peu dans le sens de l'IndyCar. Et on voit que les courses en paquet en IndyCar sont absolument incroyables, avec des dépassements ahurissants. Donc si on va vers l'IndyCar en termes de réglementation aéro, c'est une très bonne nouvelle.
Merci les amis d'avoir été dans Motors. Merci Adrien Tambay, merci Jean-Luc Roy, merci Benoît Boutron.
Merci.
À la semaine prochaine, dimanche 13h pour le prochain numéro de Motors. Tout de suite sur RMC, vous avez rendez-vous avec Christophe Cessieux et avec l'Intégral Sport. Le programme est extrêmement chargé cet après-midi, restez bien avec nous. Il y a la suite de la Champions Cup de rugby. Le Racing 92 va jouer là dans 5 minutes chez les Anglais de Leicester. Tout à l'heure, Montpellier-Toulon à 16h15. Il y a le retour de la Ligue 1, Nîmes-Lille, Nice-Saint-Etienne cet après-midi. Et puis évidemment, l'événement de la journée, c'est la finale de l'Euro féminin de handball entre la France et la Russie. Coup d'envoi 17h30 à Bercy. Ça sera à suivre en direct et en intégralité dans l'Intégral Sport. Moi, je vous retrouve à 16h tout à l'heure sur RMC. Belle journée.